L'avant-match Toulouse-Paris Saint-Germain, on est avec Tonton. On va parler du match qui nous attend demain à 21h sur Canal. Ouais, bien, si j'ai fait de la pub pour Canal, c'est pas grave. Tonton, le retour de Kylian Mbappé demain. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Est-ce qu'on va avoir le même football que la semaine dernière ou est-ce que le retour d'Mbappé va changer les choses?
En soi, si tu parles uniquement, on va parler du terrain. Viens, on parle que du terrain.
Mbappé, mais je parle du terrain, justement.
Ça tombe bien.
Le côté équipe, collectif.
Justement, quand tu prends son profil à Mbappé, au final, il nous a un peu manqué justement la semaine dernière parce que ouais, on a eu un jeu de possession qui a été assez redoutable. On a vu que défensivement, c'était solide parce qu'on récupérait beaucoup de ballons. L'an dernier, on se plaignait d'ailleurs du fait qu'on encaissait des buts, qu'on n'avait pas d'invincibilité. Là, on a réglé ça dès le premier match, j'ai l'impression. Seulement, devant, ça manquait de folie, ça manquait d'accélération, ça manquait de vitesse. Et au final, c'est complètement le profil de Mbappé. Je veux dire, c'est ce gars qui... tu lui fais la bonne passe au bon moment, il accélère et il frappe. Et au final, l'arrivée de Mbappé dans le groupe, là, si tu parles uniquement en termes de football, si tu le mets à la place d'un Soler, tu vois, sur l'aile gauche, avec un Gonçalo Ramos, qui est justement le profil d'attaquant que cherchait à avoir Mbappé l'an dernier au Paris Saint-Germain, il y a peut-être moyen que ça colle plus, justement. Donc, je me dis que on ne sait pas encore sa situation, est-ce qu'il prolonge, est-ce qu'il va partir, tout ça, on n'en sait rien. Mais si tu me parles juste du match de demain, son profil, en tout cas, risque de faire beaucoup de bien à cette équipe parce que son profil a manqué, en tout cas, la semaine dernière.
Cyril, aujourd'hui, j'ai mis 18h05, donc on était en avance. C'est toi qui as mal lu l'horaire, pour une fois. Alors, contre Lorient, il ne manque pas de percussion. Il ne manque pas que de la percussion. On n'arrivait pas à trouver des joueurs à l'intérieur du bloc adverse. Là, ça fait mal. Mais Toulouse ne va pas jouer forcément comme Lorient parce que Toulouse, c'est une équipe... Enfin, tu me diras, Lorient aussi, c'est une équipe joueuse, mais Toulouse, je ne suis pas sûr qu'à domicile, ils vont rester à 11 derrière comme Lorient l'a fait.
On est en Ligue 1 et je pense qu'à un moment, si tu essayes de jouer contre cette équipe, je pense que tu vas laisser des espaces et tu vas te faire trouer. Et aujourd'hui, quand tu es Toulouse, quand tu es Lorient, oui, tu vas produire du jeu toute l'année parce que ça fait partie de ton ADN. Et Lorient et Toulouse pratiquent un football d'ailleurs plutôt agréable. Tu vois, on ne va pas être hypocrite le reste de l'année. Mais là, c'est quoi l'intérêt pour Toulouse de à part la fierté? Tu gagnes quoi? Enfin, tu vas mettre de la fierté, tu vas prendre 5-0, ça n'a aucun intérêt. Je pense que même si Toulouse est une équipe offensive, il y a moyen de l'avoir un poil moins offensive et plus pragmatique contre ce PSG parce que ça risque d'être le match le plus difficile de l'année pour eux cette saison, clairement.
Il y a Adrien qui nous dit, en ça, on voit que l'explosivité de Leaf est moins mouche en Ligue 1, contre Lorient en tout cas, qu'en Liga. D'où son repositionnement au milieu. Qu'est-ce que tu en penses?
Non, en soi, je pense que Kang est un profil intéressant, mais il a joué qu'un match en Ligue 1. Je veux dire, on ne peut pas tirer de constat définitif sur un seul match. Et je pense que, justement, Kang, il a les qualités pour jouer au milieu de terrain. Si on ne recrute pas, en tout cas, ce poste, le fameux Messi qu'on attend au milieu de terrain, sans mauvais jeu de mots. Mais je pense que, oui, Kang, il jouait son premier match dans une équipe qui était dans un rythme assez lent, avec un bloc en face qui a très, très bien resserré les espaces. Peut-être que si tu le fais jouer plus bas sur le terrain et qu'il a plus d'espace, ce sera plus simple pour lui. D'où le milieu relayeur. En effet, je rejoins le commentaire.
Techland, le match, il est demain à 21h.
Sur Canal, ouais.
Ouais. Et il y a Bessen qui nous dit un truc intéressant, c'est que Toulouse a changé d'entraîneur. Donc, ce ne sera pas forcément de Toulouse qu'on a vu l'année dernière.
Alors oui, ce ne sera pas exactement la même équipe et le même coach, mais en soi, cette équipe a montré qu'elle travaille plutôt bien depuis sa reprise il y a quelques années par des nouveaux investisseurs. Et j'ai l'impression que justement, alors oui, tu n'auras pas forcément le même coach, mais je n'ai pas encore vu jouer cette équipe. Il y a possibilité que le coach, comme pour les joueurs, il ait été recruté par le système de la data et que du coup, ils ont cherché un coach qui correspond au profil de jeu qu'il mettait en place l'an dernier, histoire de ne pas faire une transition trop violente. Donc je me trompe peut-être, tu vois, mais à Toulouse, ça a l'air de bien bosser en tout cas ces dernières années par rapport à leurs moyens.
Ok, il y a aussi le premier match de Ousmane Dembélé. Est-ce que tu penses qu'il va être titulaire? Et qu'est-ce que tu penses de sa première apparition en tant que joueur du Paris Saint-Germain?
Je pense justement, je me posais la question, mais au final, je pense qu'il jouera titulaire. Quand je vois Gonçalo Ramos qui est arrivé le lundi, il n'a même pas une semaine de préparation dans les jambes, il a joué tout de suite titulaire parce que son profil était estimé comme nécessaire sur le terrain. Mbappé, c'est la même chose, il vient de refaire sa reprise dans le groupe. Du coup, Mbappé, on ne peut pas dire qu'il a fait la tournée avec le Japon non plus, donc il n'est pas dans la même disposition que les autres joueurs. Pourtant, il jouera titulaire. Et j'ai l'impression que Ousmane Dembélé, c'est un peu la même chose. Je pense que Ousmane Dembélé jouera titulaire. il a fait des entraînements avec le groupe. Et justement, bah, Asensio, du coup, va redevenir le joueur qu'il est censé être, c'est-à-dire bah, un super sub, histoire de tirer au mieux les qualités d'Asensio et au mieux les qualités de Ousmane.
Ok, donc tu penses que selon toi, on va avoir un peu plus de vitesse, un peu plus de. Peut-être pas de combinaison parce qu'il n'y a pas encore d'automatisme entre les trois. Mais est-ce qu'on va voir ce qui a manqué la semaine dernière ou est-ce que tu penses que ça va encore prendre plus de temps?
Alors, c'est une excellente question. En soi, on sait que Luis Enrique, bah, il disait qu'il voulait des profils d'ailier dynamiteur. Avec Mbappé et avec Dembélé, bah, pour le coup, tu as ces profils-là. Donc, peut-être que ce que tu essayes de mettre en place sera plus simple à mettre. Donc, après, oui, il pose la question d'adaptation plus pour Ousmane Dembélé. Mais Ousmane Dembélé, il a déjà une expérience de la Ligue 1. Il connaît déjà Kylian Mbappé. Après, bon, pour les autres joueurs, pas forcément. Donc, à voir comment ça se goupille. Mais Luis Enrique met quand même en place des préceptes de jeu. Qu'Ousmane Dembélé, il a quand même pas mal taffé à Barcelone durant 6 ans, même s'il n'a pas joué tous les matchs. Donc, je me dis qu'il y a moyen que l'adaptation d'Ousmane Dembélé se produise plus rapidement que prévu.
Il y a une question qui a été posée en conférence de presse tout à l'heure. Il y a Adrien qui nous la repose maintenant. Il nous dit, quid de l'activité défensive de Mbappé? Va-t-il réussir à se mettre au diapason à ce niveau? J'ai vu que Enrique, il a dit que chaque bon, enfin Luis Enrique, excusez-moi les Espagnols, il a dit que Mbappé, comme tous les joueurs, doivent attaquer et défendre, et autant que ça soit de côté ou de l'autre. Donc je pense qu'il va être intransigeant avec ça. Et je pense qu'on verra ça dès demain soir. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ben, je renvoie à ce qu'on se disait la semaine dernière. Justement, on se posait la question de sa réintégration dans l'équipe. Et je disais que justement, bah, bon, mais du coup, je vais me répéter, désolé pour ceux qui ont déjà entendu ces propos. Mais je pense que Luis Enrique, c'est à lui aussi d'avoir l'intelligence de le faire comprendre à Mbappé que ce qui est dans l'intérêt de l'équipe, c'est aussi dans son intérêt à lui. Et je pense que si tu arrives à le convaincre en lui disant, bah, si tu participes au jeu sans ballon, quand tu perds le ballon, bah, tu peux récupérer le ballon plus vite. Et si tu récupères le ballon plus vite, tu as plus de chances de te procréer une situation dangereuse. Pep Guardiola, il expliquait que le contre-pressing, il le met en place. Pourquoi? Parce que quand tu récupères le ballon moins de 7 secondes après l'avoir perdu, l'équipe en face, elle est en train d'attaquer. Et quand une équipe, elle est en train d'attaquer, bah, elle n'est pas organisée défensivement et elle est donc plus facilement prenable. Et ça peut permettre à Mbappé de, bah, d'être encore plus efficace, d'augmenter ses stats, de mettre encore plus de buts et d'être un joueur qui brille encore plus. Parce qu'au final, c'est peut-être l'une des seules facettes qui manque à son jeu. Le jeu sans ballon, le jeu aérien, les coups francs. Bon, on va pas se mentir, ce sera jamais un spécialiste des coups francs. Mais il y a des facettes dans son jeu qui sont manquantes, et je pense que celle-là, c'est peut-être bah, celle qui peut le plus facilement gommer, en tout cas. Donc, si Luis Enrique arrive à lui mettre dans le crâne que c'est dans son intérêt autant que dans l'intérêt de l'équipe qu'il défende, bah, ça peut être intéressant. Mais est-ce qu'il le fera? C'est ça la vraie question.
Ok, il y a Anas qui nous dit Toulouse vont sûrement vouloir jouer le point et mettre un bus comme Lorient, même si finalement le jeu étouffant de pressing du PSG va pousser beaucoup d'équipes en Ligue 1 à rester très bas. J'ai vu que c'est une inquiétude de Luis Enrique. Il va rencontrer beaucoup de blocs bas. Est-ce que tu penses que son jeu de possession va enfin trouver la clé de ce bloc bas? Parce qu'on sait que il pourra faire des passes pendant tout le match, essayer de contourner, contourner, contourner. C'est pas le jeu entre guillemets qui est le plus adapté forcément face à un bloc bas. Les blocs bas en général, il faut jouer avec de la vitesse, plusieurs touches de balle assez rapidement, mais très rapidement, chose qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment que son jeu de possession il va pouvoir débloquer des blocs bas?
Ben, en soi, justement, le problème il se pose, et je pense que le problème se pose par rapport à ce qu'on a vu avec l'équipe d'Espagne au final, et notamment contre le Maroc. Pour répondre à cette question, ben, qui était le neuf de l'Espagne à ce moment-là? Il n'en avait pas. Il n'avait pas de réel finisseur. Et du coup, il y a eu ce truc de oui, l'Espagne s'est quand même procuré beaucoup d'occasions, mais n'a pas réussi à justement être clinique devant. La différence avec son équipe d'Espagne, à Luis Enrique, avec le PSG, c'est que là, tu as quand même un Kylian Mbappé qui. Ben, c'est un finisseur, c'est un buteur, c'est clairement son taf de mettre plus de 50 buts par saison. Et tu as un Gonçalo Ramos qui lui aussi est un vrai neuf, et lui, pour le coup, ben, c'est un chasseur de buts. Donc là, le fait que tu en aies deux sur le terrain, ça peut te faciliter certaines choses. Ça peut te faciliter le fait de finir les occasions que tu n'arrivais pas à finir quand tu entraînais l'équipe d'Espagne et que tu n'avais pas ce fameux finisseur. Ça n'empêche pas cependant que oui, la part de danger existe et il est possible en effet qu'il soit difficile pour Luis Enrique de jouer contre ces équipes-là. Mais il a quand même plus de chances d'y arriver avec une attaque composée de Ramos, Dembélé et Mbappé qu'une attaque composée bah, de Asensio, Sarabia et Soler.
Il n'y a que 29 likes, les gars. Vous êtes 190 et c'est pas normal. Likez. Et il y a BCN qui nous dit il va falloir bien plus de verticalité à la récupération du ballon lors des récupérations hautes.
Non, mais après, c'est des débuts, c'est des automatismes. Bessène, il a raison, mais on va pas demander à Luis Enrique de mettre en un mois en place que Pep Guardiola a mis des années à mettre en place à Manchester City avec le temps et l'argent que tous les coachs auraient rêvé. Donc, oui, bien sûr, ce PSG est perfectible. Non, ce PSG n'est pas parfait, on va pas se mentir. Par contre, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un travail et qu'on a l'impression de voir du mieux? Je pense que oui, tu vois. Enfin, si tu compares au PSG de Galtier, t'as l'impression que le PSG de Galtier, il a démarré très fort pendant la prépa et qu'il n'a pas cessé de régresser de mois en mois, en fait. Et j'ai l'impression que Luis Enrique, c'est l'inverse. Il démarre plutôt lentement. En tout cas, dans la préparation, il n'a pas gagné un match de préparation. Mais en revanche, bah, tu vois le match contre Lorient, tu vois du mieux. Le match de l'Inter par rapport à Nasser, tu vois du mieux, ça progresse. Donc du coup, je me dis que oui, contre Toulouse, bien sûr que le contenu ne va pas être parfait, et je ne vais pas vous mentir. Mais en revanche, je pense qu'il y aura du mieux par rapport à ce qu'on a vu à Lorient, parce qu'il y aura des cartouches que Luis Enrique ne disposait pas d'ailleurs contre Lorient, notamment Mbappé et Dembélé.
Ok, on va attaquer la compo probable. Il y a Adrien qui a justement une question qui est pas loin. Il nous dit concernant le système, vous en pensez quoi? J'ai trouvé que ça se rapprochait plus d'un 3-4-3, même 3-3-4 par moment contre Lorient, qu'un 4-3-3. Donc c'est ce qu'on disait assez récemment avec Hernandez qui reste derrière et Hakimi qui monte, chose qui va peut-être changer à l'arrivée de Nuno Mendes. Mais là, pour demain, il n'est pas là, donc je pense qu'on risque de voir la même chose. Il y a juste la question Marquinhos, qui peut-être avait une gêne la semaine dernière, est-ce qu'il va prendre la place de Danilo? Donc en compo probable, bien évidemment, Donnarumma dans les buts. Après à droite, Hakimi. Hernandez toujours à gauche. Et en centrale, c'est là où il va y avoir la question de qui Marquinhos va remplacer, s'il remplace quelqu'un, s'il remplace Skriniar ou s'il remplace Danilo. Qu'est-ce que toi t'en penses déjà?
Je pense que c'est plus Danilo qui va sauter dans le sens où, si j'ai bien lu les rumeurs, apparemment, Luis Enrique voit Danilo comme le milieu défensif remplaçant de Ugarte. Il va le remettre au milieu. Donc du coup, dans la logique, bah, je pense que c'est Marquinhos qui va rejouer en défense centrale à côté de Skriniar. Parce que Skriniar, de toute manière, c'est pas lui qui va jouer au milieu. Et Skriniar n'est pas capable de jouer latéral non plus dans le système de Luis Enrique. Donc je pense que tout simplement, tu fais par rapport à tes joueurs. Et je pense que ça va être Marquinhos et Skriniar, avec Marquinhos qui aura plus un rôle défensif de marquage et Marquinhos qui sera le défenseur un peu plus technique, relanceur et créateur des deux.
Ok, donc là c'était pour la défense. On va attaquer le milieu de terrain. Il y a The Supreme King qui nous dit Kang In-Lee au milieu de terrain. Est-ce que vous y croyez? On en a parlé un peu dans le live d'hier, donc on va pas trop s'étaler là-dessus. Mais vite fait, tonton, qu'est-ce qu'il pourrait apporter au milieu de terrain du Paris Saint-Germain? On sait qu'il est très explosif. Peut-être qu'il va être ce que Vitinha ne sait pas faire ces derniers temps et avoir une capacité de projection, de percussion et peut-être être un peu plus précis dans la dernière passe ou dans la dernière frappe.
Bah, je pense que oui, c'est une histoire de complémentarité au milieu de terrain. Je pense que Ugarte jouera le rôle du 6, que Warren Zaïre-Emery jouera le rôle du 8 et que Kang In-Lee sera justement milieu de terrain un peu plus libre, un peu plus offensif, qui devra faire la transition entre le milieu et l'attaque. Et c'est vrai que Luis Enrique a un peu reproché cette semaine aux entraînements à Vitinha de pas être assez vertical, d'être un joueur un peu trop qui prend pas trop de risques, on va dire. Donc du coup, je pense que Kang, il peut justement profiter de ce match-là pour montrer s'il a les qualités ou non pour évoluer à ce poste. Et en fonction, Luis Enrique sera fixé. Peut-être que Kang n'est pas fait pour ce poste et ce sera plus simple de le savoir à ce moment-là.
Lauriel, salut à toi, j'espère que tu passes des bonnes vacances là où tu es. Mais quand tu parles de Kill, c'est quoi? C'est Kylian, Kang In-Lee? Ah ouais,
Ah, ouais,
peut-être plus Kang
non, je
In-Lee, ouais.
pense.
Et Kang
Ah,
In-Lee
ouais.
en 10, parce que j'allais dire Kylian en 10, je sais pas qu'est-ce que tu
Non,
fais
il
là
aura
en
appelé autre...
vacances, mais
il
c'est
aura...
pas bien.
Ouais, il aura appelé autrement. Il aura appelé autrement. Hein. Il
Ouais,
a tellement
bah,
de surnoms
10
pour
dans un
Mbappé. Ouais.
4-2-3-1 ou en relayeur.
Ouais, non, mais c'est ça. En fait, au final, peu importe le schéma, c'est quelle utilisation tu vas faire de tes milieux, en fait. Et au final, si tu joues dans un 4-2-3-1 avec un 10 ou un 4-3-3 avec un 6, un 8 et un milieu un peu plus offensif et créatif, il n'y a pas énormément de différence, en fait, au final. C'est pas le schéma de base qui compte, c'est l'utilisation des joueurs que tu en fais.
Tom Soufflaco qui nous dit Lee au milieu à tenter au moins. Alors, je
Oui, à
pense que
tenter.
bien évidemment, il va le faire, je pense, parce qu'il n'y a pas de place devant. Et deuxièmement, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, il y a un moment où Zaïre Emery, il a eu un peu de fatigue musculaire dans la semaine. Donc, je ne suis pas sûr qu'il sera titulaire. Peut-être
Oui,
que
tu
ce
peux aussi voir
sera,
Vitinha et Kang, oui.
voilà, exactement, avec Ugarte derrière. Donc le milieu de terrain, je pense qu'on peut dire que Ugarte sera titulaire. Après les deux autres, au vu de la fatigue musculaire de
De
Zaïre Emery
Warren.
et du match de la semaine dernière de Vitinha, on ne peut pas vraiment dire qui sera le plus probable. Ce sera la surprise du coach. Mais Kangin Lee, moi je le vois bien en numéro 8 demain, effectivement.
Ouais, 8 et demi, 10, on s'est compris.
Ça va, Supernik, je reviens dimanche. Dimanche, tu fais un live, voilà. C'est le
Bah,
charbon ici. Non, je rigole.
piégé.
J'en ai marre de voir parler de Ney sur Twitter. Bah, éteins Twitter, Rémi. Ça
Non, regarde,
devrait
sinon il y
bien
a
se
une autre
passer.
option. Tu peux
Ah oui, tu peux
t'as droit,
masquer le
tu
mot
peux
Neymar.
masquer le mot, tu
Ouais,
peux
tu peux
masquer le
masquer
mot.
le mot.
Moi, tu vois, genre quand il y a des sujets qui m'insupportent, je masque le mot et je te garantis, ça t'offre la paix.
C'est vrai
Tu ne
que
le verras plus
j'ai
jamais. Je ne dirai pas les mots que j'ai masqués pour ne pas avoir de problème, mais depuis que j'ai masqué les mots en question,
Moi, j'en ai
oh, je
masqué
suis
plein aussi.
serein dans ma vie. Oh, je suis serein, hein, vraiment, Twitter est plus simple.
D'ailleurs, j'ai masqué Messi parce que, d'ailleurs, on va tirer sur lui vite fait. Monsieur, je n'ai jamais voulu venir au Paris Saint-Germain. Ben, sache que nous, on n'a jamais voulu de toi. Et dès le début, tu peux regarder le podcast de Paris Central. Dès le début, on n'a jamais voulu de toi parce que tu es un nulard. Voilà ce
Moi,
que
non,
t'es.
moi j'ai une autre question. Du coup, on a le droit d'être remboursé.
Ouais, je pense
Du coup,
que ce
on
sera.
rend l'argent, du coup. T'as pas été
Rends
heureux.
l'argent, t'as pas voulu venir. Rends l'argent, ça nous fera du bien. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme question juste après les compos? Ah, on a compos probable, on va pas attaquer l'attaque puisqu'on sait que ce sera probablement
On a
Dembélé et
répondu aux
Mbappé.
questions ouais, précédemment, ouais.
Ouais, bah, écoutez, on va attaquer les pronos. Tonton, c'est quoi ton prono pour le match de demain soir?
Jouons un 2-1, mais avec un bloc bas de Toulouse, genre bien chiant. On se procure des occasions, mais on galère à marquer. Et eux, ils marquent sur un contre ou un coup de pied arrêté. C'est genre un corner ou un coup franc direct. Truc bien chiant, là.
Juste avant de donner le mien, Vincent, c'est ce que Tonton il aimerait, mais
C'est un
Dani
prix.
Olmo au milieu, ça doit coûter très très cher. Après,
C'est le problème, ouais. Il vient de prolonger à longue durée avec Leipzig en fait, et on sait que si tu vas essayer de chercher, alors que Leipzig a déjà vendu Szoboszlai et Nkunku, qui étaient tous les deux les créateurs de jeu, je pense que tu pars sur un prix. Et quand je dis ça, je suis très gentil, tu es sur du minimum 70 millions pour Dani Olmo. Donc, sans compter qu'en plus, apparemment, les négociations entre Paqueta et Manchester City ont l'air d'échouer, Dani Olmo est justement vu comme le joueur par Pep Guardiola, si Lucas Paqueta échoue. Donc, je pense que la concurrence avec Manchester City va être très rude. Qui préfère-t-il entre Pep Guardiola et Luis Enrique, deux coachs que Dani Olmo apprécie particulièrement? Ah, compliqué. En sachant que Leipzig n'était pas forcément vendeur qui puisait. Donc, mais en soi, le profil, il est super intéressant.
un bon milieu coûte cher. Après, à nous de savoir ce qu'on veut.
Bien sûr.
Ouais, bah justement, parce il y a deux pistes qui reviennent énormément ces derniers temps. Lequel pour toi apporte plus de garantie et nous serait mieux pour être le 8/10 du Paris Saint-Germain entre Dani Olmo et Wirtz? Parce que je vois que les deux noms, ils sont chauds.
Alors, pour être tout à fait honnête, Wirtz, il a eu une très très grosse blessure. Donc,
C'est ça qui me fait peur, ouais.
bah, en fait, c'est compliqué de suivre l'évolution du joueur parce qu'il avait fait une très très bonne première saison, mais après, la blessure complique les choses. On sait qui plus est que c'est un joueur allemand de Bundesliga. Je ne vais pas du coup vous faire un rapprochement avec le fait que le Bayern attaque déjà le dossier pour l'été prochain. Dani Olmo, l'avantage, c'est qu'il est déjà Luis Enrique compatible, pour le coup. C'est Luis Enrique, peut-être avec Marco Rose, le coach qui a réussi à tirer le meilleur de Dani Olmo. C'est un joueur qui est polyvalent. Il peut jouer sur l'aile gauche comme meneur de jeu excentré. Il peut jouer numéro 10 en soutien de l'attaquant. Il peut jouer dans le 4-2-3-1 à gauche également, autant que dans le 4-3-3. Il peut jouer dans le milieu à 3 comme milieu un peu plus offensif. Mais bémol, ça va être son prix. Et on va pas mentir aussi, même si c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, faut quand même mettre un peu d'objectivité dans ce qu'on dit. C'est important, tu vois. Il y a quand même le risque de blessure avec Dani Olmo qui est très élevé. Dani Olmo, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Wirtz aussi, il a une blessure assez grave. Donc, de toute manière, dans les deux cas, tu auras un profil où le risque de blessure est élevé. Le prix sera très cher dans tous les cas. Et dans tous les cas, tu auras la concurrence avec un club comme Manchester City ou le Bayern. Donc, à
Ok,
voir.
je vais juste donner mon prono avant d'attaquer la dernière question parce que c'est un live flash là, c'est un live
Ouais.
court parce qu'on n'a pas eu le temps de tourner l'avant-match avant pour le poster à 18h, donc on a dit on fait un live direct. La question, moi mon prono, Toulouse à domicile, ouais, je dirais 0-2, ouais, 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Et la dernière question, parce que tout à l'heure, Canton, je viens de me rendre compte de quelque chose de fou. En voyant la question que Jay-Z Mourinho a postée, Quand on a fait la compo probable du milieu de terrain, on n'a même pas parlé de Marco Verratti. C'est-à-dire que dans notre tête, c'était même pas possible.
Bah, il n'est
Alors
pas
qu'il s'est
convoqué dans
entraîné
le
avec
groupe.
le groupe.
Bah, il n'est pas convoqué, et Juan Bernat non plus. Donc à un moment, si le joueur n'est pas dans le groupe, bah, c'est compliqué de le voir titulaire, tout simplement. Donc la question qui se pose vis-à-vis
Mais
de
pourquoi il
Marco
s'était
Verratti,
entraîné avec le groupe cette semaine? C'est ce que je comprends pas.
bah, parce qu'un joueur, même s'il est sur le départ, il s'entraîne. Les joueurs qui sont dans le loft, ils continuent de s'entraîner.
Oui, mais
Donc
pourquoi il s'entraîne pas avec le 9 du coup, comme les autres qui sont sur le départ?
bah, parce que je pense tout simplement, si tu le mets dans le loft, en fait, tu fais baisser sa valeur. Alors que si tu ne le mets pas dans le loft, et que tu le préserves et que tu ne le fais pas jouer les matchs, tu t'évites le risque de blessure en match. Et en même temps, bah, du coup, tu permets justement de rendre le joueur disponible pour être vendu et il se maintient en forme. Mais que si tu le mets dans le loft, tu fais forcément baisser le prix parce que bah, tu montres que tu te débarrasses du joueur. Paredes, c'est parti pour 6 millions. Si tu veux pas que Verratti, il n'y a que Galatasaray qui s'intéresse, vaut peut-être mieux ne pas forcément le garder dans le loft non plus.
Mais je t'avoue que je comprends pas ce
Sa
dossier.
gestion, ouais. Non, mais sa
Parce qu'il y
gestion
a,
est simple.
deux trucs, y a deux trucs sur la table. Il y a soit Verratti veut partir, selon certaines rumeurs. Donc, vu qu'il n'est pas concentré sur le projet, ils l'ont mis sur le côté. Et il y a la deuxième rumeur qui dirait que Verratti il est revenu dans une condition physique qui n'est pas adaptée. Chose qu'il a peut-être l'habitude de faire au Paris Saint-Germain, mais avec Luis Enrique, ce n'est pas passé. Donc, du coup, il faudrait attendre qu'il se remette dans une bonne condition physique. Il y a des rumeurs dans les deux sens, on ne sait pas forcément qui croire. Moi, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans ce dossier personnellement.
Je t'avoue que j'ai pas les insides, hein. Les deux versions bah, sont possibles en fait. Donc du coup, on est dans une impasse. Oui, peut-être que en effet. Alors, le PSG est en fin. Ah non, mais peut-être, hein, sait-on jamais. Si c'est le cas, merci de Paris Saint-Germain. Je cherche du taf hein, au passage. N'hésitez surtout pas à m'embaucher. Non, blague à part. Bah, tant mieux. Si Dani Olmo est un joueur qui est pisté par le Paris Saint-Germain, parce que c'est un profil qui répond à un besoin pour le coup. Et je préfère qu'on recrute des profils que des noms, en fait, pour le coup.
Juste en oui et non, parce qu'on commence à s'éterniser. Est-ce que tu penses que Ugarte sera un top 3 mondial 600 jours?
Alors, excellente question. Bah, s'il est très jeune, il peut encore beaucoup progresser. On sait
Les
que
gars,
son sélectionneur, c'est
vous avez
Bielsa.
entendu que j'ai dit? Je lui ai dit juste oui ou non. Vous avez entendu quand même.
Ah non, mais tu connais, je suis bavard. Allez, je me mouille, on va dire oui. Je me mouille, par contre, je prends des risques.
Allez, moi aussi, je vais dire oui, on va se mouiller. Pom, 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 c'était quoi? Ah oui, la dernière chose qu'on devait aborder, c'est. Que Luis Enrique, en conférence de presse, il a dit qu'il ne choisit pas de capitaine, qu'il laisse les joueurs choisir un capitaine. Et apparemment, les joueurs auraient choisi de rester dans le bordel Marquinhos, entre guillemets. Voilà, notre leader qui n'aime pas laisser sa famille à la maison a été renouvelé par ses propres coéquipiers. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, c'est un choix du vestiaire, et si c'est le choix du vestiaire, bah, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Bah, après, écoute, si tu arrives à en tirer le meilleur à nouveau, tant mieux. Parce que Marquinhos, à son meilleur niveau, ça reste un très très bon défenseur. Seulement, si tu gardes le Marquinhos que tu as eu l'année dernière et la saison précédente depuis le Real Madrid, c'est compliqué. Donc après, écoute, ça peut changer en cours de saison après, hein. Peut-être que ce ne sera pas définitif, hein, à voir comment il évolue.
Ok les gars, je profite pour vous annoncer que exceptionnellement pas de live demain à 12h30 puisqu'il y a les débriefs à 23h. Donc on va éviter de vous inonder avec des lives. On va faire juste un seul débrief le soir à 23h05, juste après le match. Likez parce que vous êtes que 88 à avoir liké. Donc il y a un bon 250 crevards actuellement sur le live. Donc likez les gars. Et sur s'il vous plaît, c'est le service du jour, abonnez-vous à Paris Central parce qu'on essaie de taper les 10 000 abonnés. Et on n'est pas loin. Donc juste abonnez-vous. Vous êtes 38 000 à nous regarder régulièrement. Donc abonnez-vous les gars. Et n'oubliez pas que ici, c'est Paris. Ciao tout le monde.